Chapitre 19. La chute. Torquatus, élégamment vêtu, se présenta à la maison de Fabius, remit la lettre, répondit à toutes les questions et, sans se faire presser, accepta une invitation à venir souper le soir même. Puis il sortit pour chercher un logement qui répondit à l'état de sa bourse et ne tarda pas à en trouver un. Fabius, nous l'avons dit, n'accompagnait pas sa fille à la campagne et lui faisait même de rares visites. Il ne se passionnait pas pour la verdure des champs et la fraîcheur des ruisseaux limpides. Il préférait à tout les libres conversations et les caquetages de Rome. Pendant le reste de l'année, la présence de sa fille mettait un frein à sa liberté, mais quand elle était à sa villa de Campanie, Fabius ouvrait sa maison à des scènes et à des personnes qu'il n'aurait pas voulu mettre en contact avec Fabiola. Des hommes d'une vie licencieuse entouraient sa table, ils buvaient jusqu'à une heure avancée de la nuit, et les conversations légères et les propos dissolus, les parties des jeux de hasard se poursuivaient au bruit des coupes qui s'entrechoquaient. Après avoir invité Torquatus à souper chez lui, Fabius alla chercher d'autres convives. Il eut bientôt réuni les parasites accoutumés qui erraient dans les lieux que Fabius parcourait à cette heure, toujours disposés à accepter son invitation. Comme il regagnait sa maison en se promenant du côté des bains de Titus, il aperçut deux hommes debout au milieu d'un petit bosquet qui entourait le temple. Ils paraissaient engagés dans une conversation animée. Après les avoir regardés un moment, Fabius s'avança vers eux, puis attendit à une courte distance d'eux qu'un temps d'arrêt dans le dialogue lui permit de les aborder. Leur dialogue peut se résumer ainsi. « Vous ne doutez donc pas de l'exactitude de ces nouvelles ?»« Pas le moins du monde. Il est tout à fait sûr que le peuple s'est soulevé à Nicomédie et qu'il a incendié l'église des chrétiens. C'est ainsi qu'ils appellent leur temple. Or, cette église était tout près du palais. » C'est le secrétaire de l'empereur qui a donné cette nouvelle ce matin à mon père. Quelle folle idée à ces chrétiens d'aller bâtir un temple sur une des places les plus en vue de la capitale. N'aurait-il pas dû comprendre que tôt ou tard, l'esprit religieux de la nation se soulèverait contre eux et qu'on détruirait un édifice odieux, comme doit l'être toute manifestation d'un culte étranger à celui de l'Empire. Rien de plus vrai, et comme mon père le dit, si les chrétiens avaient le moindre jugement, ils cacheraient leur tête et se tiendraient à l'écart, dans un temps où ils sont tolérés avec tant de condescendance par le plus humain des princes. Mais non, ils ne se cachent pas et choisissent pour bâtir leur temple les places publiques, au lieu de se confiner chez eux dans les ruelles, comme ils avaient coutume de le faire. Au fond, je n'en suis pas fâché. On peut gagner de la réputation et faire de bons profits en organisant une chasse contre ces gens odieux, et en les détruisant si c'est possible. Voilà qui est bien dit, mais comment faire pour arriver à ce but? Il est entendu que lorsque nous découvrirons des chrétiens parmi les riches dont le crédit n'est pas trop puissant, nous partagerons le butin. Nous nous aiderons l'un l'autre. Vous penchez pour les moyens hardis et violents, j'agirai à ma guise. Mais chacun de nous recueillera tout le gain de ses découvertes personnelles. Quand nous aurons agi de concert, nous partagerons équitablement le profit. Est-ce ainsi que vous l'entendez ? Tout à fait. Fabius approcha en ce moment et aborda Fulvius avec un aimable salut. Comment allez-vous, Fulvius ? Il y a un siècle que je ne vous ai vu. Venez donc souper avec moi ce soir. J'ai invité plusieurs amis. J'espère que votre ami Corvinus, le jeune homme ainsi interpellé salua gauchement, voudra bien vous accompagner. « Je vous remercie, répondit Fulvius, mais je crains d'avoir déjà un engagement. »« Quelle plaisanterie, reprit le bon chevalier. Il n'y a personne dans la ville, en cette saison, avec qui vous puissiez souper, excepté moi. Est-ce que ma maison vous paraît atteinte de la peste? Vous n'y êtes jamais revenu depuis le jour où, après dîner, vous vous êtes querellé avec Sébastien. Ou bien quelque charme magique vous en a-t-il chassé ?» Fulvius devint très pâle et, tirant Fabius à l'écart, il lui répondit « Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. »« J'espère, répondit Fabius quelque peu surpris, que la sorcière noire ne vous a pas ensorcelé. Je désire de tout mon cœur la voir sortir de ma maison. »« Mais tenez, continua-t-il en plaisantant, j'espérais qu'un charme plus agréable agissait sur vous ce soir-là. Je suis clairvoyant et j'ai bien vu que votre cœur et vos yeux étaient tout entiers fixés sur ma jeune cousine Agnès. » Fulvius le regarda avec étonnement et reprit après une pause. « Si cela était, j'ai vu aussi que votre fille faisait tous ses efforts pour empêcher cette affaire de réussir. » « Vraiment, cela m'explique alors le perpétuel refus avec lequel vous avez repoussé mes invitations. Mais Fabiola est un philosophe et n'entend rien du tout à ce genre de choses. J'aimerais mieux qu'elle laissât là ses livres pour songer à se marier au lieu d'en détourner les autres. J'ai de meilleures nouvelles à vous donner. Agnès a autant de penchants pour vous que vous pouvez en avoir pour elle. Est-ce possible? Comment avez-vous appris cela? Pourquoi m'avez-vous fui si longtemps? Si je vous avais revu, je vous aurais appris plus tôt la confidence qu'elle me fit ce même jour. Une confidence à vous? Oui, à moi. Vos bijoux ont séduit son cœur. Elle me l'a dit. C'est de vous seulement qu'elle pouvait vouloir parler. Oui, sans nul doute, c'est de vous qu'elle parlait. Fulvius crut qu'il était question des splendides bijoux qu'il portait le jour du dîner, tandis que Fabius faisait allusion aux joyaux imaginaires que, d'après la conversation d'Agnès, dont il était incapable de comprendre le langage mystique, il croyait que la jeune fille avait reçu d'un mystérieux fiancé qui, selon lui, ne pouvait être que Fulvius. Celui-ci pensa qu'Agnès serait pour lui une proie facile, en dépit de sa réserve. La fortune et le rang s'offraient à lui, il ne s'agissait plus que de jouer habilement la partie. Fabius l'éveilla de ce songe agréable en lui disant « Il faut maintenant commencer résolument votre cours et je vous assure que vous réussirez en dépit de tout ce que Fabiola peut penser. Vous n'avez en ce moment rien à craindre de ma fille, elle est partie avec tous ses esclaves. Son appartement est fermé et nous allons entrer par la porte de derrière pour nous rendre dans la partie la plus agréable de la maison. » « Je viendrai sans faute, » répondit Fulvius. « Et Corvinus vous accompagnera, » ajouta Fabius en s'éloignant. Nous ne décrirons pas les splendeurs du banquet. Nous nous contenterons de dire que les vins les plus rares y coulèrent avec tant d'abondance que tous les convives étaient plus ou moins échauffés ou surexcités. Seul Fulvius avait gardé son sang-froid. On vint à parler des nouvelles de l'Orient. La destruction de l'église de Nicomédie avait été suivie de tentatives incendiaires dans le palais impérial. On ne doutait guère que l'empereur Galerius en fût l'auteur. Mais il en accusait les chrétiens et il agissait ainsi sur l'esprit de Dioclétien qui résistait encore, de manière à le rendre le plus ardent persécuteur des chrétiens. Chacun commença à penser qu'avant peu de mois, l'édit impérial qui commandait la destruction du christianisme atteindrait Rome et trouverait dans Maximien un exécuteur prêt à tout. Les hôtes de Fabius se montrèrent disposés à frapper de l'épieu le gibier blessé. Il faut de la générosité pour oser défendre ceux que les clameurs populaires poursuivent, et cet acte de courage est trop héroïque pour devenir commun. Les actions les meilleures des chrétiens furent blâmées. L'un des convives ne pouvait supporter le mystère dont ils s'entouraient. Un autre s'irritait de voir leur nombre s'accroître. Un troisième les regardait comme un obstacle à la gloire de l'Empire. Un quatrième les désignait comme un élément étranger qu'il fallait éliminer de la société. Un d'eux proclamait les doctrines des chrétiens détestables, un autre déclarait leurs pratiques infâmes. Pendant tout le débat, si l'on peut appeler ainsi une conversation dont tous les interlocuteurs arrivent à la même conclusion, Fulvius avait promené ses regards de l'un à l'autre des convives et avait fini par tenir son œil méchant fixé sur Torquatus. Le jeune homme demeurait silencieux, mais sa figure altérée passait tour à tour de la rougeur la plus vive à une pâleur livide. Le vin lui avait donné un courage téméraire, un motif puissant le retenait seul. Tantôt il serrait ses mains sur sa poitrine, tantôt il mordait fiévreusement ses lèvres, puis il réduisait convulsivement du pain en miettes entre ses doigts et finit par avaler avec distraction une coupe pleine de vin. « Les chrétiens nous haïssent et nous détruiraient tous s'ils le pouvaient, » dit un des convives. Torquatus avança, ouvrit les lèvres et resta silencieux. « En vérité, ils voudraient nous détruire. N'ont-ils pas brûlé Rome sous Néron? Ne viennent-ils pas de mettre le feu au palais d'Asie sur la tête même de l'empereur ?» Torquatus se leva sur sa couche, étendit la main comme s'il allait répondre, puis se laissa retomber. Ce qui est bien pire, reprit un troisième, c'est leur doctrine antisociale, leurs affreux excès. Ils se dégradent eux-mêmes en rendant un culte révoltant à une tête d'âne. Torquatus, visiblement irrité, avait étendu le bras quand Fulvius, par un habile calcul, lui décocha ce dernier trait. Ajoutez qu'ils égorgent un enfant, dévorent sa chair et boivent son sang à chacune de leurs assemblées. Le bras de Torquatus s'abaissa vers la table et la frappa d'un coup si violent que les gobelets, les flacons, se heurtèrent avec un bruit terrible et, d'une voix rauque, Torquatus s'écria « C'est un affreux mensonge, une lâche calomnie !»« Comment le savez-vous » demanda Fulvius de son ton et de son regard le plus emmiêlé. « Parce que je suis chrétien moi-même, répondit Torquatus excité, et je suis prêt à mourir pour ma foi. » Si la belle statue d'albâtre à la tête de bronze qui remplissait une niche près de la table était tombée et avait couvert de ses débris le pavé de marbre, elle n'eût pas produit plus de frayeur que cette soudaine déclaration. Tous les convives parurent un instant comme foudroyés. Après une longue pause, on put lire sur les traits de chacun d'eux leur impression particulière. Fabius paraissait très mortifié à la pensée d'avoir amené ses hôtes dans une si mauvaise compagnie. Calpurnius était rouge de colère à l'idée qu'il se trouvait là une personne qu'on pouvait croire, bien à tort sans doute, plus informée des actes des chrétiens que lui, le grand savant. Un jeune homme contemplait Torquatus, la bouche grande ouverte et les yeux stupéfaits, et un vieillard à l'humeur bizarre regardait tous les convives en ayant l'air de chercher sur lequel d'entre eux il pourrait décharger sa rage. Corvinus fixait les yeux sur le pauvre chrétien avec l'expression à demi brutale et à demi sauvage d'un paysan qui trouve un beau matin des rats pris dans son piège grossier. Il avait donc là un homme sous la main qu'il pourrait, quand il le voudrait, étendre sur le chevalet ou coucher sur le grill environné de flammes. Mais le regard de Fulvius était le plus effroyable de tous. Si un savant pouvait observer au microscope le sentiment féroce qui se peint chez l'araignée quand, après un long jeûne, elle aperçoit une mouche qui, gonflée du sang d'autres petits insectes, s'approche de sa toile, et lorsque, les yeux attachés sur sa victime, elle surveille soigneusement chaque battement d'aile et étudie quel est le plus sûr moyen de l'envelopper de son premier fil afin de se rendre maîtresse de tout ce qu'elle contient de sucre nourricier, ce savant aurait vu qu'une image saisissante de ce qu'on lisait dans les regards de Fulvius, et surtout de ce qui se passait dans ce cœur, être maître d'un chrétien dans lequel il y avait l'étoffe d'un traître, avait été longtemps l'objet de ses désirs et de ses études. Il avait un chrétien de ce genre sous la main, il s'agissait seulement de bien mener son affaire. Comment l'avait-il reconnu, deviné? C'est qu'il connaissait assez de chrétiens pour être convaincu qu'un vrai fidèle ne se serait pas laissé aller à boire avec excès et à se vanter de désirer le martyre. On se leva de table. Chacun s'éloignait du chrétien découvert comme d'un pestiféré. Il se sentait déjà seul et mal à son aise quand Fulvius, après avoir murmuré une parole à l'oreille de Fabius et de Corvinus, alla à lui et, lui prenant la main, lui dit courtoisement « Je crains d'avoir parlé inconsidérément en vous arrachant une déclaration qui pourrait devenir dangereuse pour vous. » « Je ne crains rien, » reprit Torquatus, qui était encore sous l'excitation du banquet. « Jusqu'à la fin, je demeurerai fidèle à mon drapeau. »« Chut, plus bas !» interrompit Fulvius. « Les esclaves pourraient vous trahir. Venez avec moi dans une autre salle où nous pourrons causer tranquillement. » En parlant ainsi, il le conduisit dans une chambre élégante où Fulvius fit venir des gobelets et des flacons remplis du meilleur vin de Falerne, de celui qu'on buvait dans les orgies de la haute société romaine. Corvinus, seul invité par Fulvius, les suivit. Sur une riche table de mosaïque, on avait placé des dés. Fulvius, après avoir fait boire Torquatus et causé de sujets indifférents, en jetant négligemment les dés, dit tout à coup « Que les dieux me sauvent ! Quel coup ! Heureusement que je ne joue contre personne, car je serai ruiné. Voulez-vous essayer, Torquatus ?» Le jeu, comme nous l'avons dit plus haut, avait été la cause de la ruine de Torquatus. Il était en prison pour une méchante affaire, triste résultat de sa passion, quand Sébastien l'avait converti. Pendant qu'il prit les dés dans sa main, sans avoir l'intention de jouer, il le pensait du moins, Fulvius gardait ses yeux attachés sur lui, comme le lynx qui guette sa proie, et sous ce regard fixe, l'œil de Torquatus lança des flammes, ses lèvres pâlirent, sa main trembla. Fulvius remarqua tout cela et il jugea à la pose de la main, au jeu habile du poignet et à la sûreté de l'œil exercé qui devinait les coups, que son compagnon était sous le coup de la violente tentation d'un vice dont il avait été l'esclave. « Je crains que vous n'ayez pas la main plus heureuse que moi à cette vaine occupation, » dit-il avec indifférence. « Mais j'ose dire que Corvinus qui est ici vous offrira quelque chance si vous voulez risquer la moindre chose avec lui. » « Ce sera bien peu de choses en vérité, seulement pour nous distraire, car j'ai renoncé au jeu. Mais une fois n'est pas coutume. »« Venez donc, » dit Corvinus, avec lequel Fulvius avait échangé un regard. Ils commencèrent à jouer sur de très petits enjeux, que Torquatus gagna presque tous. Fulvius continua à le faire boire, et Torquatus commença à devenir loquace et communicatif. « Corvinus, Corvinus » murmura-t-il à la fin comme en se parlant à lui-même. « N'est-ce pas le nom que Cassianus répétait ?»« Qui ?» demanda l'autre joueur surpris. « Oui, c'était bien cela, » continua Torquatus à demi-voix. « Le taureau, la bête brute. Êtes-vous la personne en question » demanda-t-il en regardant Corvinus. « Êtes-vous la personne qui frappa ce généreux enfant chrétien Pancratius ?» Corvinus était sur le point de se laisser aller à sa colère. Mais Fulvius le retint par un geste et lui dit en intervenant à temps « Ce Cassianus que vous venez de nommer est un habile professeur. Dites-moi donc où il demeure. » Fulvius savait que son complice désirait avoir ce renseignement et cette demande le calma. Torquatus répondit « Il demeure… Voyons. Non, non, je ne suis pas un traître. » Non, je suis prêt à être brûlé, torturé, à mourir pour ma foi, mais je ne veux trahir personne, non, personne. Donnez-moi votre place, Corvinus, dit Fulvius, qui voyait l'intérêt de Torquatus pour le jeu augmenter. Il fit tous ses efforts pour rendre son adversaire plus vigilant et plus attentif à la partie. Il jeta devant lui un enjeu plus considérable. Torquatus, après un moment de réflexion, l'accepta. Il gagna. Fulvius parut vexé. Torquatus doubla son enjeu. Fulvius sembla hésiter et posa devant lui un enjeu de même valeur. Il perdit encore. Les joueurs étaient silencieux, ils perdirent et gagnèrent tour à tour, mais Fulvius avait plus souvent l'avantage et était le plus calme des deux. Tout à coup, Torquatus leva les yeux et tressaillit. Il avait cru voir le bon Polycarpe derrière la chaise de son adversaire. Il se frotta les yeux et vit que c'était Corvinus qui le regardait. Il fit alors appel à toute son habileté. Il étouffait la voix de sa conscience, sa foi chancelait et la grâce l'avait quitté. Le démon de la convoitise, de la rapine, de la mauvaise foi était revenu, amenant avec lui cet esprit plus mauvais que lui, pour prendre possession de cette âme, un instant lavée de ses fautes mais mal gardée, et à leur vue, tout ce qui était sain et bon s'enfuit. À la fin, poussé à bout par ses pertes successives, exalté par de fréquentes libations, après avoir souvent puisé dans la bourse pesante que Fabiola lui avait remise, il jeta la bourse elle-même sur la table. Fulvius, hésitant, la vida, compta l'argent et plaça au côté opposé une somme d'or égale. Chacun des deux joueurs se préparait à jouer son dernier coup. Les dés tombèrent, les joueurs regardèrent silencieusement sur la table. Fulvius attira à lui l'argent, il avait gagné. Torquatus se laissa aller sur la table, cachant sa tête dans ses mains. Fulvius fit sortir Corvinus de la chambre. Torquatus battit le sol de son pied, il murmura, grinça des dents et gémit. Puis il enfonça ses doigts dans ses cheveux, qu'il arrachait en pleurant. Une voix murmurait dans son oreille « Es-tu chrétien ?» Lequel des sept esprits du mal avait prononcé ces mots ? C'était assurément le plus mauvais d'entre eux. « Il n'y a plus d'espoir, » continua la voix. « Tu as renié ta religion, tu l'as trahie. »« Non, non !» cria en gémissant le misérable. « Tu l'as trahie dans l'ivresse. Tu as tout dit, ou du moins, tu en as assez dit pour rendre impossible ton retour vers ceux que tu as trahis. » Laissez-moi, laissez-moi, par pitié !» s'exclama d'une voix gémissante le pêcheur torturé. « Ils me pardonneront encore, Dieu !»« Silence, ne prononce pas son nom. Tu es dégradé, parjure, sans espoir. Te voilà sans ressources, demain il faudra mendier ton pain. Joueur effréné, pauvre créature de rebut, qui voudrait te regarder ? Sera-ce tes amis, les chrétiens ? Et cependant, tu es malgré tout cela un chrétien. Et à cause de cela, tu seras livré à une mort cruelle, mise en pièces, et malgré cette mort, tu ne seras pas honoré par tes coreligionnaires comme un de leurs martyrs. Tu n'es qu'un hypocrite, Torquatus, rien de plus. « Qui est celui qui me tourmente ainsi ?» s'écria le misérable en levant les yeux. Fulvius était devant lui, debout, les bras croisés. « Et si tout cela est vrai ?» continua Torquatus. « Qu'est-ce que cela vous fait ? Qu'avez-vous encore à me dire ?» Fulvius reprit. « Cela m'importe plus que vous ne le pensez. Vous vous êtes livré complètement à moi. Je suis maître de votre argent. » Il montra la bourse de Fabiola. De votre réputation comme de votre repos et de votre vie. Je n'ai qu'à faire savoir à un chrétien ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez été cette nuit, et vous n'oserez plus les regarder en face. Je n'ai qu'à lâcher sur vous le taureau, cette bête brute, comme vous l'appelez, mais qui est le préfet de la cité, que nulle autre personne ne pourra contenir après de telles provocations, et demain vous serez debout devant le tribunal de son père, afin de mourir pour cette religion que vous avez trahie et déshonorée. Êtes-vous prêt, vous qui chancelez et vacillez sur vos jambes comme un joueur ivre, à aller confesser votre foi devant le tribunal dressé au forum ? L'homme tombé n'eut pas le courage de suivre l'enfant prodigue dans son repentir comme il l'avait suivi dans son péché. L'espérance était morte en lui, car il était retombé dans son péché capital, et c'était à peine s'il ressentait un remords. Il demeura silencieux jusqu'à ce que Fulvius l'obligeât à sortir de son silence en lui demandant « Eh bien, avez-vous fait votre choix ? Voulez-vous retourner parmi les chrétiens avec le souvenir de cette nuit sur le cœur ou aller demain devant le tribunal ? Que choisissez-vous ? » Torquatus leva les yeux vers lui et, avec un regard abruti, répondit d'une voix faible « Ni l'un ni l'autre. » « Que voulez-vous faire alors ?» continua Fulvius en le fascinant de son regard de faucon. « Ce que vous voudrez, dit Torquatus, excepté l'une des deux choses que vous avez dites. » Fulvius alla s'asseoir à côté de lui et lui dit d'une voix douce et persuasive « À présent, Torquatus, écoutez-moi, faites ce que je vous dirai et tout sera réparé. Vous aurez une maison, une bonne nourriture, vous serez bien vêtu et vous aurez de l'argent pour jouer si vous voulez m'obéir. Que demandez-vous ? Levez-vous demain comme à l'ordinaire, prenez l'extérieur d'un chrétien, allez librement parmi vos amis, agissez comme si rien n'était arrivé et répondez à toutes mes questions, dites-moi tout. » Torquatus grommela. « Vous m'imposez le rôle d'un traître. Appelez-le comme vous le voudrez, mais cela ou la mort, et la mort à petit feu. J'entends Corvinus qui se promène avec impatience dans la cour. « Allons, vite, votre réponse. »« Je ne veux pas la mort. Oh non, tout excepté la mort. » Fulvius sortit et trouva son ami ivre de vin et de rage. Il eut beaucoup à faire pour le calmer. Corvinus avait presque oublié Cassianus et la vieille haine qu'il lui portait avait cédé la place à des haines plus récentes. Mais son ancien ressentiment s'étant allumé, il brûlait de se venger. Fulvius lui promit de découvrir où vivait Cassianus, il employa ce moyen pour le calmer et obtint de lui qu'il suspendît toute mesure violente. Ayant renvoyé chez lui Corvinus, qui rongeait son frein et murmurait sourdement, il retourna vers Torquatus, qu'il désirait accompagner afin de s'assurer de sa demeure. À peine Fulvius avait-il quitté la chambre que sa victime, se levant de son siège, avait essayé de reprendre ses sens en se promenant à grands pas. Mais ses efforts furent vains. Sa tête, encore troublée par ses excès de boisson et les violentes émotions du jeu, était sous le coup du vertige. Les murs semblaient tourner autour de lui, il se sentait malade et son cœur battait à se rompre. La honte, le remords, le mépris, la haine des auteurs de sa chute et de lui-même, le sentiment de son déplorable abandon, le noir désespoir du réprouvé, semblables à ces lames noires de l'océan qui montent toujours en grossissant, envahissaient son âme. Incapable de se tenir plus longtemps debout, il se laissa aller le visage en avant sur une couche de soie, couvrit sa figure brûlante de ses mains glacées et recommença à gémir. Tout tournait encore autour de lui et un sourd gémissement ne cessait pas de retentir à ses oreilles. Fulvius le trouva dans cet état et le toucha à l'épaule pour le faire lever. Torquatus tressaillit convulsivement et s'écria « N'est-ce pas là l'abîme de Charybde ?